podcast.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On Air, le podcast de l'Université Toulouse-Jean Jaurès qui vous propose de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus, 12 minutes en tête-à-tête avec une ou un chercheur. Et dans cet épisode, nous allons parler aujourd'hui du genre, et c'est pas si facile de donner une définition du genre. Alors j'ai choisi celle des Nations Unies qui nous dit que le genre, ce n'est pas tant la différence biologique entre femmes et hommes, mais c'est surtout le rôle attribué au féminin et au masculin dans une société. La femme au foyer, l'homme au travail dans les années 50-60 en France en est un exemple. L'hétérosexualité comme modèle normatif du couple en est un autre. Aujourd'hui, la notion de genre s'est élargie, gender fluide, non-binaire, transgenre, pour ne citer que, sont venus bousculer les codes et surtout rendre visible une autre réalité que celle du corps. Et cela intéresse depuis longtemps notre invité. Bonjour Jérôme Courduriès.
Bonjour.
Alors vous êtes anthropologue, professeur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur au sein du laboratoire interdisciplinaire Solidarité et Territoire, le LIST, et vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut du Genre, fondé par le CNRS en 2012. Vous êtes évidemment engagé dans plusieurs programmes de recherche et vos travaux portent ou ont porté sur la conjugalité chez les homosexuels hommes en France, sur la parenté et sur le travail des juges dans les demandes de changement de sexe à l'état civil. Jérôme Courduriès, pourquoi c'est important de comprendre et d'étudier le genre ? Parce que ça fabrique les individus et les rapports entre les individus ?
Oui, exactement. La notion de genre, c'est quelque chose qui nous permet de penser que le corps qui nous est donné à la naissance, en particulier le sexe physiologique, ne suffit pas à fixer l'identité des individus. Il y a par-dessus tout un travail socioculturel qui permet aux individus d'acquérir les normes et à eux de décider de s'y conformer exactement ou de prendre quelques libertés. Le genre, c'est aussi une notion qui permet justement de souligner l'agentivité qu'ont chacun d'entre nous a pour définir sa propre identité.
Alors, dans nos sociétés occidentales, la norme du genre, c'est ce qu'on appelle la norme binaire, c'est-à-dire c'est le masculin et le féminin, essentiellement.
Oui, c'est encore le cas aujourd'hui du point de vue normatif. Mais justement, les pratiques de nos contemporains, nos pratiques à toutes et à tous, et pas simplement les plus radicales, hein, les pratiques également du quotidien qui amènent par exemple une jeune femme à pratiquer un sport réputé plutôt masculin comme le foot ou la boxe, ou un jeune homme à pratiquer un sport, une activité réputée plutôt féminine comme la couture ou la danse classique. Et ces pratiques donc conduisent, je crois, ce modèle binaire, normatif, à évoluer, à se transformer. Ça explique en partie une partie des résistances que l'on observe aujourd'hui.
Et dont on va parler. Alors, l'anthropologue que vous êtes observe évidemment toutes les sociétés. Et il y a des parties du monde, justement, où des sociétés n'ont pas ce modèle forcément binaire que nous avons, nous. Et je pense notamment à l'éducation des enfants, qui pourrait, dans certaines sociétés du monde, nous paraître à nous extrêmement surprenante.
Oui, absolument. Donc, il y a des parties dans le monde, effectivement, où on observe que des enfants, dès le plus jeune âge, sont socialisés dans l'autre genre que le sexe dans lequel ils sont nés. Par exemple, chez les Inuits, il peut arriver que dans des familles, on considère qu'un enfant soit en quelque sorte l'incarnation d'un aïeul ou d'une aïeule de l'autre sexe. Donc il y a tout un tas d'explications sur lesquelles je ne pourrais pas m'apesantir, faute de temps aujourd'hui, mais qui permettent aux gens d'expliquer que cet enfant va être socialisé par ses parents et ses proches dans l'autre genre que celui que désignait son sexe à la naissance. Et ces enfants, jusque vers l'âge de la puberté, vont être socialisés donc du coup dans un autre genre, et à partir de l'âge de la puberté, vont être à nouveau socialisés dans un genre conforme à leur sexe de naissance. Ce qui va donner lieu à l'élaboration d'individus, à la construction d'individus qui vont acquérir des compétences et qui vont être en quelque sorte des intercesseurs naturels, si j'ose dire, entre plusieurs mondes. Entre le féminin et le masculin d'abord, mais aussi entre le monde des morts et des vivants, et ces individus deviennent plus tard des chamans.
C'est la finalité d'ailleurs de ce cheminement entre le masculin et le féminin, ou pas ? Pourquoi ils font ça ?
Il est difficile d'établir la finalité de ces faits. Pour l'anthropologue, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Par contre, ce que l'anthropologue peut dire, c'est relever les congruences et relever et analyser un peu le sens de ces changements. Ce qui est sûr, c'est que la littérature nous donne à voir aussi d'autres exemples dans le monde, par exemple en Océanie, où il y a des exemples bien connus des anthropologues qui donnent à voir aussi des socialisations inversées en quelque sorte, qui font que dans leur famille, dès leur plus jeune âge, des enfants sont élevés dans l'autre genre que celui que leur sexe désignait. Et alors, ces gens ont des rôles sociaux et culturels établis. En Océanie, par exemple, il y a des sociétés où ces gens sont ceux auxquels on va confier de manière préférentielle les enfants dans la famille. Donc les choses peuvent se passer de manière très très différente effectivement ailleurs par rapport à ce qu'on a en tête aujourd'hui dans notre société.
Alors revenons justement à notre société occidentale. Si on ne se sent pas bien ou si ça ne matche pas entre notre nature biologique et ce qui nous habite finalement, ça peut aller jusqu'à un mal-être très profond. Et vous me disiez en préparant cette émission que le taux de suicide chez les homosexuels est toujours beaucoup plus élevé que chez les jeunes hétérosexuels.
Effectivement, il y a des enquêtes sociologiques qui ont été menées depuis une bonne vingtaine d'années déjà et qui démontrent que lorsque on est une femme et qu'on est homosexuel ou qu'on a eu des expériences homosexuelles plutôt, et lorsqu'on est un homme et qu'on a eu des expériences homosexuelles, le risque d'avoir commis une tentative de suicide est augmenté et multiplié par 1,8 à 2,7. C'est assez considérable, évidemment. Alors, pourquoi ce lien entre le genre, l'identité de genre et l'homosexualité ? Eh bien, c'est tout simplement parce que faire l'expérience de l'homosexualité, c'est faire une expérience contraire à la norme binaire, justement, dont vous parliez tout à l'heure, qui prévoit qu'un homme ou une femme soit hétérosexuel. Il n'y a pas d'alternative du point de vue du système normatif. Mais évidemment, les pratiques nous permettent d'envisager les choses un peu différemment.
Alors justement, les pratiques qui sont considérées comme des transgressions, donc c'est ça, ouais. Est-ce qu'elles suscitent encore beaucoup de crispations ?
Ah oui. Oui, elles suscitent beaucoup de crispations, pas seulement chez nous, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Malheureusement, l'actualité politique internationale regorge de ces crispations. On peut penser par exemple à la situation des femmes en Afghanistan, qui est absolument catastrophique depuis le retour des talibans au pouvoir. On peut penser évidemment aux jeunes femmes iraniennes, aux jeunes filles iraniennes, qui aujourd'hui subissent des empoisonnements au seul motif qu'elles sont scolarisées. Et évidemment, dans nos propres sociétés, et en France en particulier, des crispations nombreuses ont vu le jour autour des 15-20 dernières années, qui ne sont pas tout à fait nouvelles, qui sont liées aussi historiquement à l'autonomisation progressive des femmes depuis les années 70 par rapport aux hommes, et qui se cristallisent ces derniers temps dans la presse, dans l'espace médiatique, en particulier autour de l'avortement, par exemple aux États-Unis, et aussi autour de la question des jeunes trans mineurs.
Alors, pourquoi cette question des jeunes trans mineurs ?
Eh bien, La nouveauté, si j'ose dire, c'est que les personnes trans qui ne sont pas encore majeures sont de plus en plus visibles.
On peut peut-être définir ce qu'on entend par personne trans, déjà.
Oui, une personne transgenre, c'est une personne qui acquiert la conviction qu'elle relève d'un autre genre que celui qui a été désigné à sa naissance par l'observation de ses organes génitaux. Et qui décide donc de se conformer au genre dont elle se réclame. Parfois, ça peut la conduire à demander à l'état civil de la reconnaître dans son identité de genre, à elle. Et donc à demander un changement de la mention de sexe à l'état civil.
Même si elle garde son sexe d'origine.
Oui, aujourd'hui c'est possible. Le changement de sexe à l'état civil ne nécessite plus de prise en charge médicale depuis 2018. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est possible pour les majeurs.
Ouais.
Mais les mineurs, aujourd'hui, ne peuvent pas accéder à un changement d'état civil. Par contre, ils ont la possibilité de demander, par exemple, à l'école dans laquelle ils sont scolarisés, au lycée essentiellement, que les enseignants, la vie scolaire, utilisent le prénom qu'ils se sont choisis. Parfois, ça se fait avec l'accord des parents. D'autres fois, ça se fait sans que les parents soient au courant, évidemment. Et un certain nombre de familles décident d'accompagner leurs enfants mineurs, qui est en détresse, pour permettre, lui permettre une prise en charge médicale de façon à bloquer sa puberté de façon hormonale et à lui laisser le temps, lui laisser quelques années de plus, quelques mois de plus, pour être certain du genre dans lequel il se reconnaît.
C'est encore assez confidentiel, cette prise en charge, ce genre de prise en charge ?
Oui, il y a seulement quelques centres médicaux, quelques services médicaux qui sont habilités à prendre en charge de tels enfants en France aujourd'hui. C'est relativement confidentiel, oui, bien sûr, même si les résistances d'un certain nombre d'intellectuels sur le sujet contribuent paradoxalement à visibiliser ces pratiques.
Oui. Alors justement, parlons de ces résistances qui finalement, effectivement, vont de pair avec certaines avancées. Et ça génère ce que vous, vous appelez une panique morale. Expliquez-moi ça.
Effectivement, on voit depuis un certain nombre d'années une panique morale se cristalliser sur les questions de genre et qui sont liées et qui sont en quelque sorte une réaction à l'acquisition de droits nouveaux par les femmes, mais aussi par les minorités de genre et de sexualité,
ouais,
que sont les personnes transgenres, les personnes intersexes, les personnes homosexuelles par exemple. Alors je crois que ce sont des réactions qu'on observe dans des milieux traditionnalistes, parfois religieux, mais pas toujours, et qui témoignent de la peur du changement dans un monde que l'on voudrait figer. Mais nulle part dans le monde, ni dans l'histoire, on a vu une société complètement figée.
C'est le principe même de la société, elle bouge.
Exactement, les sociétés bougent, les pratiques sociales contribuent à faire bouger les normes qui régissent nos vies. Et on peut s'interroger, bien sûr, sur le sens de ces changements. Mais on peut aussi s'interroger sur le sens de ces résistances qui paraissent vouloir figer un monde dans la naphtaline. Et ça a été particulièrement visible, me semble-t-il, autour des polémiques sur le mariage pour tous.
Mariage pour tous, dont on va fêter les 10 ans le 17 mai prochain, je tiens à le rappeler. Alors aujourd'hui tout de même, on va quasiment terminer sur une note positive. Le champ des possibles s'élargit, le concept de genre se décline en plein de nuances, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, vous en avez évoqué quelques-unes il y a quelques secondes. Et surtout, il y a de plus en plus de visibilité. Cette visibilité, elle est importante, Jérôme Courduriez.
Ah oui, 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 elle est très très importante. Parce que parmi les jeunes de ma génération, donc il y a 25-30 ans, plutôt 30 d'ailleurs, il y avait effectivement dans les œuvres de fiction et dans l'espace médiatique assez peu de modèles alternatifs. Aujourd'hui, il me semble qu'on voit fleurir dans la fiction et dans l'espace médiatique des récits fictionnels ou des documentaires qui mettent en image tout un champ des possibles qui était jusque-là invisible. On peut prendre quelques exemples. Je pense par exemple à l'autrice britannique Alice Osman qui a publié une série de romans graphiques intitulée Heartstopper, qui a donné lieu à une série sur Netflix qui a connu un retentissement mondial considérable et qui justement permet, je crois, aux jeunes aujourd'hui d'identifier qu'ils ne sont peut-être pas seuls à s'interroger, à se demander qui ils sont, à expérimenter d'autres pratiques qui ne sont pas prévues par le système de genre et peut-être que ça leur permet à eux d'être un peu moins angoissés par ces changements qui les assaillent.
Et à se sentir un peu moins anormal. Alors.
Exactement.
Ouais. Cette visibilité, elle existe aussi à l'université. Et là, si je ne me trompe, l'université Jean Jaurès fait partie Toulouse Jean Jaurès fait partie des pionnières dans les études sur le genre. Et vous-même, Jérôme Courduriez, vous avez ouvert un cours intitulé « L'anthropologie du genre qui ne désemplit pas », preuve que c'est, comme on dit, concernant.
Oui, je crois que c'est pas nouveau, bien évidemment, mais c'est particulièrement visible aujourd'hui. Je crois que les jeunes générations, des étudiants, sont en demande justement que les savoirs qui leur sont dispensés à l'université tiennent compte des changements dans nos sociétés et dans les autres et essaient de les analyser, de leur donner des grilles de lecture. ce que l'on voit aussi... alors évidemment, ça ne se passe pas n'importe où. Ça se passe dans l'université de Jean Jaurès, dont vous disiez justement que c'est une université qui a été pionnière dans les études sur les femmes et sur le genre. Et à ce sujet, je ne peux qu'encourager les étudiants qui nous écoutent à venir participer au congrès des études de genre qui se tiendra du 4 au 7 juillet sur notre campus. Ce sera gratuit pour les étudiants. Et
c'est ouvert à tous.
Exactement, ça sera ouvert à tous. Et il y aura tout un tas de thèmes qui seront abordés, qui seront passionnants.
Je n'en doute pas. Je vous remercie beaucoup, Jérôme Courduriez, d'avoir accepté notre invitation sur le podcast On Air.
Merci à vous.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production Le Vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. La réalisation est signée Cédric Perronnet du pôle production Le Vidéographe. On Air est diffusée sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.